L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Rouge et Noir autour de la table ce soir pour débattre notre journaliste Gilles Gauthier, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et notre invité ce soir c'est l'ancien sélectionneur du 15 de France, Pierre Berbizier, bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de ce 100% Rouge et Noir, Gilles.
Le journal du stade, le débat 100%, la France affronte le Pays de Galles samedi, mais à fou, Barassi, Flamand, Fabien Galthié doit-il intégrer encore plus de Toulousains dans son 15 de départ? Ensuite ce sera la fan zone, on entendra les supporters toulousains qui débriefent le derby gagné face à Castres. Et puis Antoine Dupont remporte le tournoi de Los Angeles avec l'équipe de France à 7. Quelles retombées ou conséquences pour le Stade Toulousain? Pierre Berbizier nous donnera son avis d'expert. Et enfin, l'interview de notre invité Pierre Berbizier en deuxième partie d'émission. On replongera dans quelques souvenirs de sa grande carrière.
100% Rouge et Noir, le journal du stade.
Antoine Dupont en vacances cette semaine.
Le demi-mêlée toulousain ne reprendra l'entraînement collectif que le 18 mars prochain. Il pourrait rejouer avec les Rouges et Noirs lors du déplacement à Bordeaux le 24 mars ou la réception de Pau la semaine d'après.
Bordeaux-Toulouse du 24 mars déjà à guichet fermé.
Oui, alors que le match ne se jouera que dans 3 semaines, il n'y a déjà plus de place. Les 42 000 places du Matmut Atlantique ont déjà trouvé preneur.
Les filles du stade battent un record d'affluence.
Ouais, c'était dimanche dernier, elles recevaient Blagnac au stade Ernest Vallon en championnat Elite 1 et il y avait 6400 spectateurs, record d'affluence pour un match de championnat féminin.
100% Rouge et Noir, le débat 100%.
Les Toulousains Thibaut Flamand, Mani Meafou et Pierre-Louis Barassi ont intégré le groupe France cette semaine pour préparer le match contre le Pays de Galles de ce dimanche, actuellement 4e du tournoi des 6 nations. La France n'a plus rien à espérer dans la compétition. Alors question messieurs, le sélectionneur Fabien Galthié doit-il titulariser Meafou, Flamand et Barassi contre les Gallois?
Alors on va procéder dans l'ordre avec vous Pierre Berbizier. En deuxième ligne, qu'est-ce que vous voyez où, sachant que bon, la France n'a plus rien à espérer dans ce tournoi, n'a pas été brillante depuis le début, est-ce que c'est le temps d'une grande lessive?
Écoutez, en tous les cas, Woki Tuilagi ne serait peut-être pas d'accord si on leur demandait. Ouais. Donc c'était la dernière charnière alignée, avec une bonne prestation quand même de Tuilagi, ouais, dans ses débuts internationaux. Je pense que Woki est un cadre aussi du groupe à Fabien Galthié. Ça m'étonnerait qu'il le sorte. Par contre, je pense que les Toulousains peuvent rentrer en cours de match.
Donc sur le banc, a priori, Flamand et Meafou. Meafou qui était très attendu, qui a refait un gros match contre Toulouse. Vous ne pensez pas qu'il y a la tentation quand même de le mettre d'entrée?
Oui, a priori, ça semblerait une évidence. Maintenant, ce serait dommage, le jeune Tuilagi, qui a répondu présent sur son match, ce serait pour lui vécu comme une sanction de, ouais, le sortir après ce premier match, cette première apparition, ouais, plutôt convaincante.
Au centre, Danti est suspendu. Ficou, a priori, passerait premier centre parce que Galthié n'aurait pas l'intention de le sortir. Je vous vois faire les gros yeux. Du coup, qui en 13? Deux porteurs, Gaëtan, Barassi?
Alors, je dirais, c'est plutôt le triangle d'attaque et j'y associerai la charnière. Ouais. Le problème va se poser aussi avec la charnière.
Jalibert est blessé.
Je pense qu'on reverra Lucu. On pourrait tenter le Garec, Gibert, qui sont tous les deux complices avec le Racing.
Alors vous seriez plutôt chaud pour le Garec d'entrée? Bah,
écoutez, là, j'ai pas tous les éléments. C'est vrai que ce qu'il a fait, ce serait intéressant de voir. Ouais. En débutant un match associé à Gibert, puisqu'ils jouent ensemble en club, ce que ça pourrait donner. Maintenant, je pense que avec la blessure de Jalibert, je ne sais pas si Galthié voudra changer les deux en charnière. Il y a une certaine expérience. Mmh. C'est un match au Pays de Galles. Faire démarrer une nouvelle charnière à Lams Park, c'est pas forcément le meilleur endroit pour démarrer. D'autant plus qu'il va falloir aussi changer au centre. Donc voilà toutes les incertitudes, les interrogations. Ouais. Il faudrait avoir tous les éléments. C'est vrai qu'au centre aussi, je pense qu'il ne sortira pas Ficou, donc qui est un de ses cadres également. Quand on voit deux porteurs, notamment son essai ce dernier week-end, on se dit que cette génération est en train de prendre le pouvoir et on aimerait les voir. Ouais. Donc c'est vrai que c'est cette génération, Le Garec, Bielbarré, Deporter, Gailleton, à un moment donné, il va falloir les voir. Je pense que Moefana aussi est un joueur expérimenté qu'on pourrait aussi retrouver au centre.
Ouais.
Donc il y a beaucoup d'interrogations et je le répète, je n'ai pas tous les éléments à l'intérieur du groupe pour dire qui choisir.
Mais d'un œil extérieur, vous, votre premier sentiment, ce qui vous plairait, vous parce que vous avez cet œil, vous, d'entraîneur, d'ancien sélectionneur, voilà.
Sincèrement, j'aimerais voir Deporter à Moefana.
Ok. Moefana en 12 ?
Pourquoi pas ?
Deporter en 13 ?
Ouais.
Et certains disent que Deporter peut jouer aussi en 12, parce qu'il fait fin comme ça, mais il est aussi vers 100 kilos. Ouais. Et Gailleton en 13 aussi également. On pourrait associer les deux en même temps. Même si...
Je ne sais pas si... mettre quand même un peu d'expérience. Et ouais. Moefana, quand même, l'expérience de ces matchs-là, toujours répondu présent. Lui aussi, quand il est rentré, le plus souvent en tant que remplaçant.
Okay.
C'est quand même moins d'incertitude par rapport à ce triangle d'attaque, surtout que le problème de la charnière n'est pas réglé.
En 10, Astoy, du coup ? C'est ça qui tient la route, selon vous ?
Pourquoi pas, on parle de Ramos pour le numéro 10.
Ouais,
donc,
et Barré à l'arrière.
Et Barré à l'arrière, donc c'est aussi faire débuter Barré dans un contexte pas évident. Donc Ramos est bien à l'arrière, j'aurais plutôt tenté quelque chose au niveau de la charnière en laissant Ramos arrière.
Okay.
Et je pense qu'il va jouer à l'ouverture.
Et dernier choix, là aussi un petit peu cornélien quand même pour le staff, entre deux Toulousains, Marchand, Movaca. Peato Movaca a une période assez exceptionnelle après la Coupe du Monde, il semble un petit peu marquer le pas. Est-ce que d'après vous, on va revoir plutôt Marchand débuter, Movaca rentrer en cours de match ?
Ça semblerait logique, vu Movaca me semble manquer un petit peu de fraîcheur physique et de fraîcheur mentale actuellement.
Il n'y a pas beaucoup coupé après la Coupe du Monde. Hein.
Voilà, ça a été assez étonnant. Ça a été un des premiers, peut-être le premier à reprendre dès qu'il est rentré. Et quand on sait ce que demande une préparation et jouer une Coupe du Monde, donc physiquement et mentalement, il a le contre-coup aujourd'hui. Donc c'est dommage, tellement il avait montré de belles choses.
Ouais.
Et il était devenu titulaire. Mais je pense qu'il marque le coup actuellement et physiquement et mentalement, Marchand devrait revenir.
Ben voilà, l'avis avisé d'un ancien sélectionneur.
Fin de ce débat. Oui, messieurs, on va prendre maintenant le pouls des supporters, s'il vous plaît.
100% rouge et noir.
Dans la fan zone, on va voir ce que pensent les supporters du stade. Ce soir, ils débriefent la large victoire dans le derby contre Castres, 33-6.
On va dire que les jeunes nous font vraiment très très plaisir par rapport en fait aux cadres qui sont partis ou qui sont sur d'autres projets. Et aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir récupéré quelques cadres, ça nous a permis effectivement de pouvoir créer ou de consolider en fait le collectif qui aujourd'hui est présent et pour pouvoir en fait faire un match comme on a fait aujourd'hui. Et nous, en engendrant le maximum de points qu'on pouvait. Voilà.
Heureusement, Ernest Vallon était chauffé à blanc, clairement. Et ça nous rassure aussi sur l'avenir du stade et la qualité de l'école de rugby que nous avons.
Tu vois les mecs comme Coste, tu vois les mecs comme Merclair, Barassi, c'est des personnages qui, pour moi, demain, feront le stade.
Oui.
C'est juste ça, quoi.
Depuis des années, Castres nous a toujours fait des surprises à domicile, à l'extérieur. Et surtout, à domicile, ils nous ont fait à plusieurs reprises des convenus. Et franchement, je m'attendais peut-être à une victoire, mais vraiment serrée. Une telle leçon de rugby, je ne l'attendais pas non plus.
L'émission 100% rouge et noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Vous êtes dans 100% rouge et noir. On va maintenant parler d'Antoine Dupont, déjà titré avec l'équipe de France à 7.
100% rouge et noir, l'avis de l'expert.
À peine quelques matchs avec l'équipe de France à 7 et voilà Antoine Dupont déjà titré. Le week-end dernier, le demi de mêlée toulousain a remporté le tournoi de Los Angeles en battant l'Angleterre 21-0 en finale. Alors Antoine Dupont va-t-il revenir rebooster ou sur les rotules avec son club du stade toulousain ? Quel est votre avis d'expert, Pierre Berbizier ?
Écoutez, je pense que ça dépendra de la période de récupération que l'on donnera à Antoine. Il aura besoin vraisemblablement de récupérer. Il faut faire le point sur son état de forme. il n'a pas été quand même sollicité, souvent remplaçant, il n'a pas été sollicité à l'extrême. Donc non, je crois qu'il faut faire le point avec lui, il se connaît très bien, faire le point sur le plan physique, sur le plan mental aussi, pour qu'il n'y ait pas saturation un peu plus tard. Mais je pense que très vite, il devrait être opérationnel. En tous les cas, ce que l'on voit sur les terrains, il démontre une certaine fraîcheur physique et mentale.
Il vous a bluffé sur ce qu'il a montré à 7 avec une adaptation qu'on peut juger un peu rapide quand même, hein ?
Oui et non, je pense que oui, on connaît les qualités d'Antoine, exceptionnelles. À partir de là, le 7 avec ses espaces encore plus larges, forcément peuvent convenir et ont convenu à Antoine. Donc ses qualités de défenseur aussi sur l'homme. Donc quelque part, ça ne m'étonne pas. Alors après. Je crois que c'est une très bonne chose d'avoir remporté ce tournoi. Ouais. Maintenant, je me pose la question, quelle est la valeur de ce tournoi ? Quand je vois le dernier carré, il n'y a pas une nation de l'hémisphère sud.
Ça pose question.
Les Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud notamment, qui sont habitués à dominer ces tournois. Je pense qu'il y a une préparation en vue des Jeux Olympiques qui semble différente du côté de l'hémisphère sud. On retrouve 4 équipes de l'hémisphère nord. L'Espagne, bon, qui n'est pas habituée à ce genre. Donc, bon, mais c'est bien de l'avoir gagné. Il y a eu un éclairage sur le rugby à 7. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, avec Antoine Dupont dans l'effectif, forcément, on est champion olympique.
Vous comprenez-vous ce choix, parce qu'il a été critiqué, de choisir de faire les JO, une partie de la saison à 7, les JO en fin de saison. Et quand on voit qu'en même temps, le 15 de France, qui est quand même la vitrine de la fédération, qui galère, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que vous l'avez compris, ça, ou... Ça vous chagrine un peu.
On le comprend. Ce que j'aurais aimé, c'est que le capitaine de l'équipe de France de rugby à 15 reparte sur le nouveau cycle en conduisant sur le premier match son équipe. Pour moi, ça aurait été un signe fort que le capitaine, et là le capitaine est parti en préparation, donc voilà, j'aurais aimé au moins que sur le premier match, quand je l'ai vu le lendemain avec Toulouse, et heureusement d'ailleurs que Toulouse a eu
Bayonne.
Pour son match contre Bayonne, donc je me dis, la veille, ne pas le voir alors qu'il peut jouer le lendemain, je pense que le capitaine de l'équipe de France en titre aurait dû repartir sur ce cycle et lancer son équipe. Voilà.
Juste le premier match contre l'Irlande.
Mais puisqu'après il avait fait le choix, et s'est acté, mais au moins c'était un signe fort. Okay. C'était pour moi un signe fort qu'il donnait à l'équipe de France. Il était encore avec elle. Là, il était déjà parti.
Bon, a priori, voilà, pas de soucis sur la fin de saison. Il ne sera pas rincé. Il va être en forme pour les matchs de phase finale du Stade Toulousain. Le premier, c'est quand même la Champions Cup, le Toulouse Racing du week-end du 7 avril. Ça va arriver relativement vite, quoi.
Oui, mais je pense que physiquement, il se connaît très bien. Je pense qu'il aura le temps de récupérer et de se remettre en condition. Non, je pense que sur le plan mental, il faut éviter avec ses voyages. Ouais. Donc, ça fait beaucoup. C'est autant sur le plan physique, je ne m'inquiète pas. Autant c'est sur le plan mental, voir comment il digère un petit peu ces séquences, ces différentes séquences.
Merci messieurs. On passe maintenant à l'interview de notre invité Pierre Berbizier.
100% rouge et noir, le CV de l'invité.
Le CV Express, Pierre Berbizier, vous me dites si je me trompe, même s'il n'y a pas forcément besoin de le rappeler. Beaucoup de monde vous connaît. 65 ans, débute à Lannemezan, puis Lourdes et Agen, carrière en club, champion de France 88 avec Agen, finaliste Coupe du Monde 87, deux grands chelems, tournoi des 5 nations à l'époque, 80-87, ancien sélectionneur des Bleus de 91 à 95, de l'Italie 2005-2007 et des clubs de Narbonne, du Racing 92 et de Bayonne en 2018 notamment. Évidemment, une des plus grosses carrières du rugby français. Le coéquipier que vous aimeriez revoir là-dedans, que vous avez peut-être perdu de vue, que vous aimeriez revoir.
Bah écoutez, c'est un équipier de l'équipe cadette de Lannemezan avec qui on avait été champion de France.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est Bernard Sabatier, que j'aimerais revoir le plus souvent, qui était en troisième ligne de cette équipe. Mmh. Et donc voilà, c'est un équipier, un ami qui m'a toujours marqué.
Le coéquipier le plus fou.
Alors là, Je parlerai, je prendrai ma casquette d'entraîneur et il y avait un second de ligne que j'ai eu en Italie au Racing, Santi De La Pe, un Argentin qui jouait, que j'ai eu. Et Santi était adorable, mais était capable de tout, quoi. Voilà.
Vous pouvez faire quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il vous a fait?
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas. À le raconter, il en a tellement fait que il était coutumier du fait.
C'était hors terrain.
C'était hors terrain, oui, okay. Oui, parce que sur le terrain, c'était quand même un soldat, un guerrier, et il se permettait ensuite donc. par exemple, de se déguiser avec son ami Castro Giovanni, puisque c'était l'attelage, et ils étaient capables de sortir pour aller au banquet des tenues particulièrement élégantes.
L'action que vous aimeriez pouvoir refaire, alors soit parce qu'elle a été parfaitement maîtrisée, ou parce que vous aimeriez la faire autrement. Et ça peut changer le cours d'un match ou d'une carrière.
Bah écoutez, j'aimerais revivre l'action de cette demi-finale de Coupe du Monde contre l'Australie sur l'essai de Serge Blanco.
87. Effectivement. Oui, la France est en finale, effectivement. L'adversaire que vous détestiez, l'équipe ou l'adversaire, voilà.
Je dirais, je dirais Toulon. Je parle plus d'une équipe. Hein? C'est vrai que j'étais toujours bien accueilli à Toulon quand j'allais jouer à Toulon, forcément avec Jérôme Gallion, avec qui on passait de bons moments. Mais quand il fallait aller jouer à Toulon, j'ai vécu des matchs où je passais 80 minutes, j'entendais Berbizier une chanson, je l'entendais régulièrement. Donc si vous voulez, c'était un endroit où effectivement il fallait s'accrocher.
Alors pour les plus jeunes, Jérôme Gallion, c'était le 9 de Toulon et vous étiez en concurrence avec lui pour l'équipe de France.
C'est vrai.
Le moment où vous êtes senti le plus fort dans votre carrière?
Je reviendrai sur cette demi-finale de Coupe du Monde contre l'Australie en 87.
Ouais.
Ce match gagné, où c'est sans doute un des matchs où je sentais, j'ai vécu le match au ralenti, donc je voyais, j'ai été porté sur ce match. C'est sans doute ce match où je me suis senti le plus à l'aise, où j'anticipais parce que j'avais l'impression de voir les actions se dérouler avant, et donc c'est sans doute le match pour moi en référence.
Ouais, beaucoup de joueurs racontent comme ça des moments quasi de grâce, où dans un match, tout ce qu'on fait, ça réussit.
Alors ce sera mon match de grâce.
Voilà, c'est ça, exactement.
100% rouge et noir. Le c'est vrai, c'est pas vrai.
Deux affirmations sur vous, Pierre Berbizier. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas vrai. Pierre Berbizier, il a jamais revu la défaite des Bleus en demi face aux Box en 95.
Exact.
Impossible, trop dur.
Quand je vois les problèmes d'arbitrage que l'on a évoqués lors de notre dernière Coupe du Monde...
Bah à côté, c'est de la rigolade.
Ah ben, c'est de la rigolade. Donc, bien évidemment, nous, ça a été organisé. Autant Benekofi, je pense, n'a pas fait un bon arbitrage, autant Derek Bivan, ça a été bien organisé.
Ça paraît évidemment maintenant assez clair. Beaucoup d'acteurs maintenant, les langues se délient.
Oui, c'est marrant, mais à l'époque, j'avais un petit peu évoqué le problème. Personne n'avait bronché.
Effectivement. Deuxième affirmation, Pierre Berbizier, il sera sur une liste lors des prochaines élections pour la présidence de la FFR.
Je crois pas.
Okay.
Je crois pas. Je pense que c'est... non, je n'ai pas cette dimension politique. Donc, je pense que sur le sportif, l'encadrement, mais la dimension politique a toujours été une dimension qui m'a manqué. J'aurais dû travailler peut-être cette dimension. Ça m'aurait servi dans certains cas.
Mais on vous l'a pas proposé ?
Non, non, non. Et je pense qu'on me le proposera pas.
Parce que vous avez quand même des choses à apporter au rugby encore.
Ben, la preuve que non, c'est donc je regarde, je suis spectateur, ça me suffit et je fais. Et ça me permet de faire autre chose, et notamment par rapport aux miens, ça me permet de rendre aux miens ce qu'ils m'ont permis de faire pendant tant d'années.
Ouais.
Et je me dis que je suis un privilégié de pouvoir aujourd'hui être avec les miens et de profiter des miens. Il faut dire que j'ai 4 petits garçons qui sont très turbulents et ils m'occupent. Il m'occupe bien.
Au rugby ou pas encore?
Mais écoutez, le plus grand a 9 ans, il s'est essayé au rugby l'an dernier, et alors cette année, il voulait essayer le basket. Quand je lui ai dit, mais Lucas, quand même, pourquoi tu continues? Mais papy, le rugby, je l'ai fait pour toi.
Ben oui, quand on a un ancien international et sélectionneur comme grand-père, on se sent obligé. Hein.
Je sais pas. Non, mais ils aiment bien toucher à tout. Et je pense qu'il, quand il aura un peu de continuité, comme il a des qualités athlétiques, il pourra réussir.
Bon, on va surveiller ça de près. Merci beaucoup, Pierre Berbizier. C'est un plaisir, comme à chaque fois.
Merci.
Les prochains rendez-vous rugby, Gilles.
C'est Stade Toulousain, Perpignan, le déplacement à Perpignan du stade samedi à 21h, coup d'envoi donc oui à 21h, mais avant match dès 20h30 sur 100%, et puis 100% Rouge et Noir, mercredi prochain après le journal de 19h.
Au revoir à tous.
Bonne soirée.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.